Bonjour, nous démarrons l'émission Une heure en Palestine qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13 qui vous propose cette émission. C'est Sidi qui a la technique. Merci Sidi. Et merci à toute l'équipe de Radio Galère. Avant de démarrer, je vous rappelle que pour Palestine 13, si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement www.assopalestine13.org. Nous renouvelons les articles de notre site et de notre page Facebook chaque jour, en essayant d'alterner actualités locales et internationales, documents de fond, ainsi que des pages historiques, culturelles ou sportives. Vous y trouverez des pétitions, des appels à participer aux campagnes nationales ou internationales, comme celle en cours contre Puma, le sponsor de l'OM. Honte à lui, car il est aussi le sponsor des équipes de foot des colonies israéliennes illégales. Car bien sûr, Palestine 13 est partie prenante du mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, mouvement créé par les Palestiniens en référence au mouvement de boycott de l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Sur notre site, il y a actuellement deux appels à dons. Un pour aider la reconstruction du théâtre de Jénine. Ce théâtre était construit en 1924 et il a été endommagé gravement par les raids récents israéliens meurtriers, par les bulldozers et explosions que l'armée a perpétrées il y a 2 semaines, que ce soit dans les théâtres ou dans les locaux administratifs du théâtre. Il y a un second appel à don, et il émane de l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, association à laquelle nous sommes affiliés. Et cet appel à don nous demande d'aider à soulager les habitants du camp de réfugiés de Jénine, qui abrite, selon une estimation des agences onusiennes, près de 23 600 personnes, parmi lesquelles on dénombre 7 150 enfants. Au terme de l'agression israélienne de la semaine dernière, 12 Palestiniens ont été tués. 100 d'entre eux n'avaient même pas 18 ans. 40 familles sont toujours privées d'accès à leur lieu de vie. Cela représente 173 personnes, dont 64 enfants, et tout autant de vies. Il faut les aider. La solidarité internationale ne doit pas être un vain mot. Sur notre site, dans la rubrique Agenda, vous trouverez les dates et lieux des actions à venir à Marseille, à Marseille, et dans tout notre département, autour de la question palestinienne, qu'il s'agisse de films, de rencontres ou d'autres événements. Je vous rappelle www.assopalestine13.org et notre page Facebook Palestine 13. Il y a beaucoup de dates dans l'agenda et je vous invite à le consulter. Mais je voulais vous informer dès maintenant de la venue à Marseille les 12 et 13 septembre de Mohamed Sahaneh, le dessinateur caricaturiste que nous avons déjà rencontré au Festival du dessin de presse et de la caricature de l'Estac. Ce 12 septembre, il présentera son nouvel ouvrage à la librairie Transit et le 13 septembre au Polygone étoilé avec la projection d'un documentaire « Beautiful Résistance ». Peindre, c'est résister. Nous sommes ravis de bientôt revoir Mohamed. Une autre très bonne nouvelle, mais une très bonne. En novembre et en décembre, le Théâtre de la Joliette proposera 3 spectacles que nous rêvions de voir venir à Marseille. Le premier, il s'appelle Milk, et c'est du Casabi Théâtre. Le deuxième, c'est le Freedom Théâtre de Jénine qui viendra avec la pièce And Here I Am. Et le troisième spectacle sera une pièce, une histoire subjective du Proche-Orient, mais néanmoins valide, par le théâtre Majaz. Donc des dates à découvrir, des réservations à faire très vite. Pour l'émission d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la conférence de l'avocat franco-palestinien et de son épouse Elsa, Salah Amouri. Cette conférence s'est déroulée le 10 juin 2023 dans les locaux de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Après une première partie, nous ferons une petite pause musicale avec une chanteuse palestinienne que nous aimons beaucoup, Ney Barghouti, qui chantera Gandhara. Puis, nous reviendrons à la deuxième partie de la conférence de Salah et d'Elsa. Je voudrais remercier Salah et Elsa de leur venue à Marseille et aussi la CGT France Télécom qui a réalisé cet enregistrement. Bonne semaine à tous et à mercredi prochain.
Aujourd'hui, dans les prisons israéliennes, il y a 5000 prisonniers politiques palestiniens. Ces Palestiniens sont détenus dans des dizaines de prisons. Ces prisons qui se trouvent tous derrière la ligne, derrière la ligne verte. Parmi ces 5000 prisonniers, il y a 1000 prisonniers en détention administrative, il y a 160 enfants, il y a 40 femmes, 1000 prisonniers malades, 350 prisonniers qui ont passé plus que 20 ans dans les prisons, 40 prisonniers qui ont passé plus que 25 ans et une vingtaine de prisonniers qui ont passé plus que 35 ans. Alors là, les conditions de détention des prisonniers quotidiennement ils sont difficiles. Tout est fait pour briser la mentalité et briser la psychologie de ces prisonniers. Tout est fait pour les rendre vraiment en charge sur leur société et sur leur famille. Je veux commencer par la détention administrative. La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation de 1948 et l'occupation israélienne, elle l'a réappliquée sur les Palestiniens. C'est un ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien pour une durée entre un mois et six mois. Cette période peut être renouvelée infiniment. Alors aujourd'hui, 1000 prisonniers dans ce cas-là, parmi eux 11 enfants. Comme j'ai dit, cette détention elle est basée sur cette arrestation est basée sur un dossier de sécurité secret. Moi, je l'ai vécu en tant que prisonnier, mais aussi en tant qu'avocat. Ce dossier, on n'a pas accès à ce dossier. Ce dossier reste secret entre le procureur militaire et le juge militaire. Tu ne peux pas savoir il y a quoi dans le dossier. Tu ne peux pas savoir, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de jugement. Et là, tu peux rester des mois et des années dans ce cadre d'arrestation. Depuis la réoccupation de la Cisjordanie en 2002, il y a des prisonniers palestiniens qui ont passé plus que 12 et 15 ans en détention administrative. Cette détention, cette façon de détention est utilisée juste pour la destruction de la société palestinienne. Elle est utilisée juste pour la destruction de la vie des gens. On utilise cette façon de détention dans les moments les plus pires et les plus critères dans la vie des gens. À la mort d'un membre de la famille, au moment d'un mariage d'un membre d'une famille. Alors, cette façon de détention arbitraire, elle est vraiment utilisée juste pour détruire systématiquement la vie de ces gens. Et parmi eux, il y a 11 enfants, des enfants de l'âge de 12, 13, 14 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, en parlant des enfants, aujourd'hui, il y a 160 enfants dans les prisons israéliennes. Ces enfants sont dans deux prisons, on va dire, séparées. Dans chacune, il y a 80 enfants. Ces enfants, on peut trouver, comme j'ai dit, de l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, jusqu'à l'arrivée de l'âge de 18 ans. Ces enfants sont jugés dans les mêmes tribunaux militaires illégaux que les prisonniers adultes. L'occupant, malgré prétendre signer la Convention de droit des enfants, refuse de l'appliquer sur les enfants palestiniens. Ces enfants, par exemple, ils ont droit à un tribunal spécial pour les enfants. L'occupant israélien, jusqu'à aujourd'hui, refuse d'établir un, un tribunal spécial pour les enfants. Alors, ils sont jugés dans ces tribunaux militaires. Les conditions de vie quotidienne des enfants sont pareilles que les prisonniers adultes. Aucune différence est faite pour ces enfants. La majorité des droits de ces enfants sont confisqués dans la prison. Par exemple, un enfant, il ne peut pas continuer ses études pendant ses mois et ses années d'incarcération. Des enfants, ils peuvent passer des mois et des mois sans pouvoir visiter leurs parents. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme j'ai dit, comme toutes les prisons se trouvent derrière la ligne verte, ça veut dire qu'il y a des checkpoints à passer pour avoir accès aux prisons. Alors, pour avoir accès aux prisons pour les gens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, il faut un permis spécial. Ce permis spécial, il passe par la Croix-Rouge. Alors, la procédure, les premières 3 mois, aucun prisonnier peut visiter pendant cette procédure. Alors, même les enfants, pendant les premières 3 mois, ils peuvent ne pas avoir aucun contact avec l'extérieur. Même la vie quotidienne, parce que moi, j'ai été arrêté la première fois à l'âge de 16 ans. Et les enfants, ils passent les mêmes interrogatoires, tortures physiques et psychologiques, comme les prisonniers adultes. Moi, à l'âge de 16 ans, j'étais, après une arrestation très agressive à la maison, j'étais mis dans un centre d'interrogatoire où j'étais isolé dans une pièce de 2 mètres carrés avec des murs grises, une petite lampe jaune, un trou qui était les toilettes, et un petit matelas de 2 cm et une couverture où j'étais obligé de rester 60 jours dans cet isolement. Et je me faisais interroger, des fois ça arrivait à 20 et à 22 heures de suite d'interrogatoire où je suis attaché sur une chaise, menotté derrière les mains, derrière les dos sur la chaise. Alors les enfants sont traités dans cette manière-là. Aujourd'hui on a le cas de Ahmad Manasra. Ahmad Manasra, un enfant palestinien de Jérusalem qui était blessé à balle au moment de son arrestation. Et après, il a passé des interrogatoires très agressifs. Il était torturé psychologiquement, physiquement. À la place de lui donner le soin adapté pour ses maladies psychologiques, qu'il n'a pas reçu. Et évidemment, ces maladies sont développées de plus en plus. Et là, à la place de ça, ça fait 2 ans qu'ils l'ont placé à l'isolement total dans une pièce de 2 mètres carrés où il est enfermé 23 heures sur 24 heures. Il a le droit à une heure de circulation dans la cour où il doit choisir s'il doit être menotté main ou pied pendant l'heure de la circulation. Il a pas de contact avec l'extérieur. La majorité, de toute façon, des gens à l'isolement total, ils ont pas le droit à visiter. Toute demande pour cet enfant, pour le libérer au tribunal civil israélien, elle était refusée. Et vraiment, cet enfant peut mourir dans sa pièce à chaque moment. Alors, dans ce cadre-là, des enfants, malheureusement, aujourd'hui, il y a 160 enfants que le seul but, c'est vraiment d'assassiner leur enfance dans les prisons et leur rendre une enfance et brutale. Parce qu'une fois un enfant qu'il est en prison, pour quelques jours, pour quelques mois, vraiment, il sort pas le même enfant dans lequel il est rentré. Les femmes aussi, ils subissent les mêmes circonstances de détention. Des fois, ces circonstances, ces conditions sont vraiment plus pires et plus graves. Aujourd'hui, il y a 40 femmes palestiniennes détenues. La plus récente arrêtée, il y a 2 jours, Layan Kayed de Ramallah, une ancienne jeune prisonnière étudiante. Ces femmes, des fois, les circonstances sont pires. Parce que les moindres de leurs besoins n'est pas respecté. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y a des femmes enceintes qui s'étaient arrêtées pendant leur grossesse. Au moment de leur accouchement, ils étaient envoyés dans une pri- prison, on va dire, un hôpital-prison qui s'appelle Ramleh. Et au moment de l'accouchement, pour des raisons de sécurité, ils étaient obligés d'accoucher, mais avec une main et un pied attachés et menottés au lit pendant leur accouchement. Et après, ils ont le droit de garder le bébé 2 ans avec eux dans le prison. Alors, ils gardent l'enfant 2 ans en prison et après, ils envoient le bébé à l'extérieur. Mais c'est arrivé dans 2 cas qu'il y avait toute la famille arrêtée. Il y avait le père, la mère, les frères, les sœurs. Il n'y avait personne à l'extérieur pour accueillir le bébé après 2 ans de prison. Alors, ces femmes, juste récemment, en février, ils ont demandé d'améliorer leurs conditions de détention. Ils sont fait gazer dans leur cellule, menottés pendant 1 jour et demi par terre et vraiment torturés. Alors ces femmes aussi subissent cette torture quotidienne dans les prisons. Il y a aussi la question des prisonniers malades. Les prisonniers malades, malheureusement, il y en a 1000 aujourd'hui. Une fois que tu es malade avec une maladie sérieuse, on va dire, dans les prisons israéliennes, tu vois que c'est la fin de ta vie dans la prison. Parce qu'il n'y a jamais le soin, adapté pour les maladies. Une fois que tu tombes malade, pour des semaines, ça va traîner, ça va être l'aspirine pour n'importe quelle maladie. Alors, si tu as une maladie grave, elle va s'aggraver de plus en plus. Aujourd'hui, on a 29 prisonniers avec la maladie de cancer qui ne reçoivent pas le soin adapté. Walid Dakra, un ancien prisonnier des territoires 48 qui est depuis 37 ans en prison, qu'ils ont découvert qu'il a une maladie de cancer il y a quelques années. Ils refusent de le libérer malgré qu'il lui restait 2 ans. Le ministre israélien Ben Gvir qui vient de déclarer il y a quelques jours que Walid il doit mourir dans les prisons israéliennes et de ne pas sortir. Alors même l'utilisation des maladies pour la torture s'est fait. Je me souviens de Sétan et Louis Sétan, un ancien prisonnier qu'on était ensemble en 2008. À l'époque, il avait passé déjà 23 ans en prison, il lui restait 2 ans. Avant 2 ans de sa libération, ils ont découvert la maladie de cancer. Après 6-8 mois de demande qu'ils ont traîné, il s'est fait opérer. Et comme il a un statut un peu spécial, il est druze du plateau du Golan. Alors à la demande, il y avait plusieurs demandes pour sa libération. Le docteur de la prison, il a dit que maximum il va vivre à 6 mois. Alors c'est pas la peine qu'il meure dans la prison. Et il a conseillé de le libérer. Ils l'ont libéré. Au bout d'un an, il n'était pas mort. Alors le même tribunal qui l'a libéré, il a essayé de le remettre en prison parce que les calculs de docteur n'étaient pas bons. Alors c'est dans cette mentalité-là qu'on reçoit le soin. Avant-hier, ils ont décidé d'annuler les soins des dents dans les prisons. Et ils ont dit, si un prisonnier il veut voir un dentiste, il doit payer. Et sa famille, elle doit payer l'administration de prison pour voir un dentiste. Alors, il y a des morts. D'accord. Alors, à cause de ces mauvais traitements et d'autres façons, malheureusement, bien évidemment, il y avait avant, mais depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, 240 prisonniers morts dans les prisons israéliennes. Depuis le début de cette année, 3 prisonniers morts. Les prisonniers sont morts de différentes manières. Il y en a qui sont fait assassiner directement après l'arrestation. Il y en a qui sont morts à cause des tortures psychologiques et tortures physiques dans les interrogatoires. Et la majorité, ils sont morts aussi à cause de cette négligence médicale. Mais le plus pire, le plus inhumain et dangereux, que les Israéliens, même après la mort de ces prisonniers, ils gardent les corps morts détenus jusqu'à la fin de la détention de ces corps morts. Aujourd'hui, dans ce cadre-là, on a 13 corps des prisonniers détenus dans ce qu'on appelle des cimetières à Limero, juste pour la continuité de la torture pour les familles, la torture pour la torture de la société palestinienne. Je m'arrête là pour la première question, j'étais assez long, je suis désolé. Et après, on peut continuer. Oui, par rapport à la justice internationale. Regarde, la question de la CPI ou la Cour pénale internationale, je pense qu'on voit le déséquilibre de comment la communauté internationale elle gère les questions, parce que il y avait pour l'Ukraine, ça a vite bougé, ils ont à peine déposé la plainte, il y avait la demande de l'arrestation de Poutine et qu'elle n'a même pas pris quelques mois, alors que le dossier palestinien, ça fait 75 ans. Et il y avait des demandes, il y avait des plaintes, et tout est fait. Il y avait les décisions de destruction du mur 2009 qui n'était pas respectée. Je pense que la question de la justice internationale, on peut juste la voir quand on a vraiment un mouvement de solidarité internationale et une résistance palestinienne très forte qui impose, eux, leur loi sur la communauté internationale.
Merci Salah. Alors maintenant Elsa, je me tourne vers toi. Et... Voilà, Elsa, ton engagement dans la défense des droits humains du peuple palestinien, il est ancien. Les punitions collectives pour les familles des détenus, puis spécialement pour votre famille, et surtout ton interdiction de rejoindre ton foyer à Jérusalem. Le silence des autorités françaises, puisque tu avais à ce moment-là, je crois, un contrat avec le consulat de France à Jérusalem. Et puis, une dernière question, quel accueil en France pour celles et ceux qui défendent les droits humains, la justice pour le peuple palestinien ?
Bonsoir, merci à tous les organisateurs du coup pour cette invitation. C'est un honneur pour nous de venir à Marseille témoigner. Mon engagement, effectivement, il date de quelques années. Moi, j'étais une jeune militante dans une organisation de jeunesse de gauche, on va dire. Donc, la question de la Palestine, effectivement, c'était et c'est toujours pour ces organisations une cause importante. Donc, très rapidement, je me suis rendue en Palestine. Et puis, en 2006... la maman de Salah, Denise, qui est donc française et qui habite à Jérusalem, elle a contacté à l'époque le président de l'AFPS, qui était aussi député et qui est toujours mon père, Jean-Claude Lefort. Et elle lui a dit, écoutez, je vous contacte parce que je suis un peu désespérée. Mon fils est en prison, il est incarcéré arbitrairement. Les autorités françaises, elles font le strict minimum, c'est-à-dire la visite consulaire, que n'importe quel Français incarcéré dans le monde, y compris s'il est accusé de choses horribles, et si, même s'il est condamné pour des choses horribles, reçoit cette visite. À part ça, il se passe rien. Donc je me tourne vers la société civile française pour essayer de faire en sorte que mon fils ne croupisse pas en prison, puisque alors à l'époque, il n'était pas encore condamné. Mais il risquait au début ce qui lui avait été effectivement imposé, c'était 14 années de prison, sauf s'il plaidait coupable. Son avocate a plaidé coupable, ce qui est le cas de la plupart des détenus palestiniens, puisqu'en fait c'est un marchandage de peine. Hein. Si on vous dit, vous toutes et tous, même si vous êtes attachés à une cause, si on vous dit c'est 7 ou 14 ans, je pense qu'il n'y a personne qui va décider qui va prendre 14 ans. Un comité de soutien à l'époque s'était créé. Et je travaille aussi dans la vie. Et mon domaine, c'est la communication. Donc moi, je m'occupais de tout ce qui était communication du comité de soutien. Donc j'ai eu à l'époque c'était difficile hein, entre donc 2006 et 2011 quand Salah a été libéré pour faire bouger les médias. C'était bon, c'était silence radio. Un Français qui était détenu en Israël, ça intéressait personne. Pour faire bouger les élus, c'était aussi difficile, à part bien sûr à gauche, à la gauche de la gauche. Mais voilà, on a pas lâché. Il y a eu des conférences qui ont été faites et dès le début, et c'était la volonté de Salah et c'était notre volonté à tous dans le comité de soutien, c'était de dire. D'accord, on parle de Salah parce qu'il est franco-palestinien et que du coup il y a un sens d'interpeller les autorités françaises en France, mais le but c'est pas de parler de Salah pour parler de Salah, c'est de parler de Salah pour parler de tous les prisonniers politiques palestiniens, parce que c'était une des parties de l'occupation qui n'était pas forcément très médiatisée en France, et donc ça incarnait, en fait, on avait un exemple concret. D'un Palestinien qui était, Salah l'a dit tout à l'heure, il a été arrêté quand il était tout jeune, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que il a aussi été témoin de raids à son domicile quand son oncle était recherché. Il a été blessé par balle lors d'une manifestation. En fait, il, comme beaucoup de Palestiniens, il a accumulé dans sa vie un grand nombre de répressions de l'occupation. Et voilà, l'important c'était vraiment aussi de parler de tous, parce que c'est pas juste une cause, mais les autorités françaises pour nous ont, avaient et ont toujours une responsabilité dans la défense d'un citoyen français. À l'époque, ils étaient aussi pleinement investis dans la défense d'un autre citoyen français, qui était un caporal de l'armée israélienne et qui s'appelle Gilad Shalit et qui était détenu à Gaza. Alors pour lui, c'était beaucoup de médias, beaucoup d'honneurs, beaucoup de portraits sur des mairies, alors que quand il a été arrêté, il était un soldat d'une armée d'occupation en service, alors que Salah a été arrêté en tant que jeune étudiant, un civil, voilà. Donc Salah a été libéré la première, enfin pas la première fois, c'était la troisième en 2011 dans le cadre de l'échange. Justement contre ce soldat franco-israélien Gilad Shalit. Depuis, il n'a pas cessé d'être. Il n'a pas été vraiment libre, en fait. Il y a eu des ordres militaires qui l'interdisaient d'aller dans des endroits. On s'est mariés. Effectivement, comme tu le disais. 2 ans après notre mariage, alors que je travaillais pour le consulat de France à Jérusalem, que j'avais un visa d'employé du consulat de France à Jérusalem, donc on peut imaginer que ça peut un peu protéger, que la France, c'est un pays qui sait se faire respecter. Je suis venue en France pour un voyage, et à mon retour, j'étais enceinte de 6 mois. J'ai été arrêtée à l'aéroport de Tel Aviv et mise en détention 3 jours. Et on m'a dit que je ne pourrais plus jamais aller, enfin plus jamais. À l'époque, on m'avait pas dit que c'était pour 10 ans, mais en tout cas, on m'avait dit non, vous ne rentrez pas chez vous. Voilà. L'enjeu, c'était surtout que notre fils ne naisse pas à Jérusalem, parce que ça, là, je pense, on en parlera tout à l'heure. Mais les Jérusalémites ont un statut particulier. Il y a une vraie importance de naître à Jérusalem pour que les bébés, enfin les enfants, soient reconnus comme citoyens de Jérusalem. Et donc il y avait cet enjeu-là, et le deuxième enjeu, qui est le côté de punition collective, c'est d'utiliser la famille de quelqu'un pour le contraindre à partir, en fait. Parce que du coup, moi je me retrouvais enceinte en France, au moment où voilà, vous êtes dans un, où vous projetez dans un futur joyeux, comme disait Salah, il cible toujours des moments clés de votre vie. Un mariage, une naissance... un peu pour dire aux Palestiniens, soyez pas trop heureux, parce que nous, on est toujours là. On est toujours là pour vous dire que on va pas vous lâcher. Donc voilà, et après, ça a continué. Salah a été arrêté en 2017. Donc on a réactivé le comité de soutien. Alors, au fil des années, ça a été plus facile, parce que du coup, nombreux d'entre vous avaient vu Salah. Entre ces détentions, il était libre de venir et de témoigner. Donc, Les gens, c'était plus facile de mobiliser et on avait aussi de plus en plus d'élus qui nous soutenaient. Donc on a continué, mais ils ont continué aussi leur acharnement jusqu'à une dernière peine de prison de 2021 à 2022 qui s'est terminée par la déportation de Salah le 18 décembre. Donc nous, on a essayé. Pour moi, c'est pas un échec. Ils ont été obligés de l'expulser. Ils ont été obligés de commettre un crime de guerre. C'est l'ONU qui le qualifie cette déportation de crime de guerre. Ils ont été obligés parce que Salah, il est toujours resté droit et digne et il a jamais, malgré toutes les pressions et malgré tout le poids effectivement sur les familles, parce que on parle de nous, mais effectivement. Par exemple, il y a des punitions quand récemment, en septembre, Salah et 39 autres prisonniers avaient fait une grève de la faim. Pendant cette grève de la faim, les familles n'ont pas le droit de visiter les détenus. Donc c'est une punition pour le détenu, mais c'est aussi, il y a toujours la famille qui est privée de, qui est inquiète. Ils sont en grève de la faim, dans quel état ils sont. Bon, Salah en plus, il avait été mis à l'isolement. Donc effectivement, la famille est toujours utilisée pour. Pour mettre la pression et pour contraindre les gens à abandonner leur engagement politique, soit à partir en fait. Voilà. Donc, c'était quoi ta deuxième question ?
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France ?
Ah oui, en France, vous savez autant que moi que c'est difficile de militer pour la Palestine en France, déjà parce que c'est. Ce qu'ils appellent un conflit, même si c'est pas un conflit, mais c'est une occupation. Cette occupation dure depuis tellement longtemps que pour pas mal de monde, c'est quelque chose de fréquent. On entend parler de la Palestine de temps en temps aux infos, ou des fois ça vaut pas plus qu'un bandeau sur les chaînes d'information. C'est difficile. Il y a aussi une volonté aussi de l'État français de criminaliser le soutien à la Palestine. On l'a vu notamment le ministre d'Intérieur Darmanin qui s'en prend notamment au collectif Palestine Vaincra et à d'autres collectifs. Et puis vous l'avez vu ici quand une réunion en présence du président d'Amnesty International a été aussi déplacée à de nombreuses fois. Voilà, c'est vrai que c'est difficile actuellement. Il y a l'État français qui aide pas et puis aussi il y a un fort. Mouvement de pression sur l'État, sur les villes, sur les députés. Je pense notamment à Ercilia Soudet, une collègue de Daniel, qui sont harcelées sur les réseaux sociaux dès qu'ils parlent de Palestine et qui sont traitées d'antisémites à tout va. Effectivement, c'est difficile, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher parce que nous, on vit rien de grave, hein, même si c'est pas agréable cette répression, mais comparé à ce qu'endure le peuple palestinien, à leur quotidien de souffrance et de lutte, je pense qu'il faut pas lâcher et puis voilà, il faut, comme disait Salah, il faut pousser les médias, les politiques à ce que la Palestine et le droit du peuple palestinien soient à l'agenda. De toutes les instances internationales. Donc voilà, il ne faut rien lâcher, je pense.
Je salue l'arrivée de Noreg Neveu, adjointe à la mairie du 4-5, et de Pauline Tournier, attachée parlementaire d'Hendrik Dev. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, Salah ?
Il y a deux choses avant de... On a combien de temps ? Ouais, d'accord. Alors, pour parler de l'autre sujet sur la question qui est importante aussi, sur la question de Jérusalem. Il faut savoir que Jérusalem, elle était occupée sur deux parties. Il y en a une qui s'était occupée en 48 et l'autre elle était occupée en 67. La majorité du parti, du parti qui a été occupé en 48, les Palestiniens là-bas, soit ils sont fait tuer, comme c'est passé à Deir Yassine et d'autres villages, soit ils étaient envoyés, expulsés dans les camps de réfugiés. Alors la majorité des Palestiniens ne sont plus dans leur, territoire. La deuxième partie qui était occupée en 67, là où j'étais, où je suis né moi, la majorité des Palestiniens se sont restés. Cette partie, les gens qui sont nés à Jérusalem, ils sont nés sans nationalité. Ils n'ont pas le droit d'avoir une nationalité, ni israélienne, ni palestinienne. On est né, moi je suis français, j'ai la nationalité française parce que ma mère est française. Les restes des Palestiniens n'ont pas de nationalité. Pour voyager, parce que je sais la question comment ils voyagent, pour voyager, ils ont un document qui s'appelle « Laissez passer ». Ils le renouvellent tous les ans, c'est là où ils demandent leur visa. Alors ils ont 100 nationalités. L'occupant israélien, c'était clair dès le début qu'il veut mettre les deux parties, celle de 48 et 47, et qu'elle soit le capital uni de l'État d'Israël. En 82, il a fait la loi de la réunification de la ville. 95, après les accords d'Oslo, il a fait une loi qui s'appelle le centre de vie. Il faut prouver que tu vis toujours à Jérusalem pour garantir que tu gardes ce papier, cette carte de résidence qui te permet de vivre à Jérusalem. Parce que si tu la perds, ça veut dire que tu es viré de la ville automatiquement maintenant. 2018, la première loi qui était faite qui s'appelle le défaut d'allégeance. Déjà, dans le droit international, on n'a pas à donner allégeance à une force occupante. Alors cet défaut d'allégeance qui a donné le pouvoir au ministre de l'Intérieur de révoquer la carte de résidence des Palestiniens de Jérusalem sous prétexte qu'il y a un dossier de sécurité secret. Moi, personnellement, moi et mes avocats, jusqu'à aujourd'hui, on n'était pas affrontés avec des preuves pourquoi ma carte elle était retirée. Dans ce cadre de cette loi de défaut d'allégeance, on était 13 Palestiniens à être visés par cette loi. Moi et 7 autres prisonniers qui sont toujours en prison, et au moment de leur libération, on ne saura pas où est-ce qu'ils vont être libérés. Et le reste, c'est les cartes parlementaires palestiniens qui s'étaient élus en 2006. Par la population palestinienne, c'est des députés. Et alors, leur carte de résidence aussi, elle était révoquée. Et depuis, ils étaient expulsés en force dans les territoires de l'autorité palestinienne, où ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas le droit d'avoir des nouveaux papiers. Ils vivent dans l'apartheid total, ils n'ont pas le droit de circuler, ils n'ont pas le droit de voyager, ils n'ont pas le droit d'avoir de l'assurance médicale ou de sécurité sociale. Ils sont arrêtés tous les ans en détention administrative. Là, juste récemment, deux parmi eux, deux députés, ils sont fait arrêter en détention administrative. Alors la question de Jérusalem, il y a vraiment, pour moi et pour les gens de Jérusalem, la Nakba depuis la catastrophe palestinienne n'est pas terminée. Et c'est vraiment le but, c'est de faire partir les Palestiniens. Toutes les politiques israéliennes faites sur place, c'est fait pour faire partir d'un Palestinien. La construction du mur, qui a totalement changé les frontières historiques de Jérusalem, qui a fait partie déjà 150 000 Palestiniens hors des frontières de Jérusalem. Bon, ils n'ont pas perdu la carte de résidence, mais ils peuvent la perdre dans le futur. Ils sont dans des quartiers surpopulés derrière le mur. Alors physiquement, ils sont derrière le mur. La construction, la colonisation, la continuation de la colonisation de Jérusalem, ça continue. Le projet colonial, que ce soit par exemple le téléphérique, un nouveau projet qui va être construit en 2030, et le tramway qui a été construit par une compagnie française. La continuation de la destruction quotidienne des maisons, juste depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, en Cisjordanie et Jérusalem, 138 maisons détruites par l'armée israélienne. La confiscation des maisons à Jérusalem, ça continue. La confiscation des restes des terres. Les destructions, il y a un plan de détruire deux grands quartiers, le quartier de Sheikh Jarrah qui était arrêté grâce à la résistance palestinienne en 2021, et le quartier de Silwan, qui est juste collé à la vieille ville de Jérusalem. Ce quartier, ils prétendent qu'à la place de ce quartier, il y a 3000 ans, il y avait le jardin de David, alors que David il sortait de la vieille ville pour aller boire son café dans ce jardin. Alors aujourd'hui, ils ont prévu de détruire tout un quartier pour créer ce jardin et faire ce jardin. Alors vraiment, à Jérusalem, il y a ce nettoyage ethnique qui continue quotidiennement. Moi, ma déportation, à 38 ans, je vis à l'exil. J'ai bien compris le sentiment des Palestiniens de 1948 qui s'étaient mis dans les camionnettes et envoyés au Liban, envoyés en Jordanie ou ailleurs. Alors le projet n'a pas continué. Le projet, il continue toujours. Le projet de cette colonisation n'a pas arrêté. Alors ça, c'est ce qui concerne Jérusalem. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou je peux conclure sur les questions des prisonniers. Après, tu peux rajouter quelque chose. Alors, pour retourner sur la question des prisonniers. Je sais que l'image que j'ai donnée, c'est une image très, très sombre, on va dire. Une image qui est difficile, à l'image qui est inhumain, c'est vrai. Mais il y a un autre côté, j'aimerais bien parler là-dessus, que pour nous, pour les prisonniers palestiniens, c'était hors de question qui nous brise notre volonté, qui nous casse notre mentalité. C'était hors de question qu'ils réalisent ces buts sur nous, sur nos corps et sur nos cerveaux. Pour nous, c'était hors de question. Alors on a tout fait l'inverse pour rendre utile tout le temps qu'on passe en prison, les jours et les années qu'on a passé en prison, on a tout fait pour rendre utile ces années d'emprisonnement. faut savoir que Jérusalem, elle était occupée sur deux parties. Il y en a une qui s'était occupée en 48 et l'autre qui était occupée en 67. La majorité du parti, du parti qui était occupé en 48, les Palestiniens à la base, soit ils sont fait tuer, comme c'est passé à Deir Yassin et d'autres villages, soit ils étaient envoyés, expulsés dans les camps de réfugiés. Alors la majorité des Palestiniens ne sont plus dans leur, territoire. La deuxième partie qui était occupée en 67, là où j'étais, où je suis né moi, la majorité des Palestiniens se sont restés. Cette partie, les gens qui sont nés à Jérusalem, ils sont nés sans nationalité. Ils n'ont pas le droit d'avoir une nationalité, ni israélienne, ni palestinienne. On est né, moi je suis français, je veux dire, j'ai la nationalité française parce que ma mère est française. Le reste des Palestiniens n'ont pas de nationalité. Pour voyager, parce que je sais la question comment ils voyagent, pour voyager, ils ont un document qui s'appelle « Laissez-passer ». Ils le renouvellent tous les ans. C'est là où ils demandent leur visa. Alors ils ont 100 nationalités. L'occupant israélien, c'était clair dès le début qu'il veut mettre les deux parties, celle de 48 et 47, et qu'elle soit le capital uni de l'État d'Israël. En 82, il a fait la loi de la réunification de la ville. 95, après les accords d'Oslo, il a fait une loi qui s'appelle le centre de vie. Il faut prouver que tu vis toujours à Jérusalem pour garantir que tu gardes ce papier, cette carte de résidence qui te permet de vivre à Jérusalem. Parce que si tu la perds, ça veut dire que tu es viré de la ville automatiquement maintenant. 2018, la première loi qui était faite, qui s'appelle le défaut d'allégeance. Déjà, dans le droit international, on n'a pas à donner allégeance à une force occupante. Alors, cet défaut d'allégeance qui a donné le pouvoir au ministre de l'Intérieur de révoquer la carte de résidence des Palestiniens de Jérusalem, sous prétexte qu'il y a un dossier de sécurité secret. Moi, personnellement, moi et mes avocats, jusqu'à aujourd'hui, on n'était pas affrontés avec des preuves pourquoi ma carte, elle était retirée. Dans ce cadre de cette loi de défaut d'allégeance, on était 13 Palestiniens à être visés par cette loi. Moi et 7 autres prisonniers qui sont toujours en prison et au moment de leur libération, on ne saura pas où est-ce qu'ils vont être libérés. Et le reste, c'est les cartes parlementaires palestiniens qui s'étaient élus en 2006. Par la population palestinienne, c'est des députés. Et alors, leur carte de résidence aussi, elle était révoquée. Et depuis, ils étaient expulsés en force dans les territoires de l'autorité palestinienne, où ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas le droit d'avoir des nouveaux papiers, ils vivent dans l'apartheid total, ils n'ont pas le droit de circuler, ils n'ont pas le droit de voyager, ils n'ont pas le droit d'avoir de l'assurance médicale ou de sécurité sociale. Ils sont arrêtés tous les ans en détention administrative. Là, juste récemment, deux parmi eux, deux députés, ils sont fait arrêter en détention administrative. Alors la question de Jérusalem, il y a vraiment, pour moi, et pour les gens de Jérusalem, la Nakba depuis la catastrophe palestinienne n'est pas terminée. Et c'est vraiment le but, c'est de faire partir les Palestiniens. Toutes les politiques israéliennes faites sur place, c'est fait pour faire partir les Palestiniens. La construction du mur, qui a totalement changé les frontières historiques de Jérusalem, qui a fait partie déjà 150 000 Palestiniens hors des frontières de Jérusalem. Bon, ils n'ont pas perdu la carte de résidence, mais ils peuvent la perdre dans le futur. Ils sont dans des quartiers surpopulés derrière le mur. Alors physiquement, ils sont derrière le mur. La construction, la colonisation, la continuation de la colonisation de Jérusalem, ça continue. Le projet colonial, que ce soit par exemple le téléphérique, un nouveau projet qui va être construit en 2030, et le tramway qui a été construit par une compagnie française, la continuation de la destruction quotidienne des maisons juste depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, en Cisjordanie et Jérusalem, 138 maisons détruites par l'armée israélienne. La confiscation des maisons à Jérusalem, ça continue. La confiscation des restes des terres. Les destructions, il y a un plan de détruire deux grands quartiers. Le quartier de Sheikh Jarrah, qui était arrêté grâce à la résistance palestinienne en 2021. Et le quartier de Silwan, qui est juste collé à la vieille ville de Jérusalem. Ce quartier, ils prétendent qu'à la place de ce quartier, il y a 3000 ans, il y avait le jardin de David, alors que David il sortait de la vieille ville pour aller boire son café dans ce jardin. Alors aujourd'hui, ils ont prévu de détruire tout un quartier pour créer ce jardin et faire ce jardin. Alors vraiment, à Jérusalem, il y a ce nettoyage ethnique qui continue quotidiennement. Moi, ma déportation, à 38 ans, je vis à l'exil. J'ai bien compris le sentiment des Palestiniens de 1948 qu'ils étaient mis dans les camionnettes et envoyés au Liban, ou envoyés en Jordanie ou ailleurs. Alors le projet n'a pas continué. Le projet, il continue toujours, le projet de cette colonisation n'a pas arrêté. Alors ça, c'est ce qui concerne Jérusalem. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou je peux conclure sur les questions des prisonniers. Après, je vais rajouter quelque chose. Alors, pour retourner sur la question des prisonniers, je sais que l'image que j'ai donnée, c'est une image très, très sombre, on va dire. Une image qui est difficile, une image qui est inhumaine, c'est vrai. Mais à l'autre côté, j'aimerais bien parler là-dessus, que pour nous, pour les prisonniers palestiniens, c'était hors de question qui nous brise notre volonté, qui nous casse notre mentalité. C'était hors de question qu'ils réalisent ces buts sur nous, sur nos corps et sur nos cerveaux. Pour nous, c'était hors de question. Alors on a tout fait l'inverse pour rendre utile tout le temps qu'on passe en prison, les jours et les années qu'on a passé en prison. On a tout fait pour rendre utile ces années d'emprisonnement. Alors on avait cette volonté que notre résistance n'arrête pas devant la porte des prisons, mais elle continue dans les prisons. On change de méthode, on change de façon de résistance, mais on n'arrête pas la résistance dans la prison. Alors on avait cette vie bien organisée. On avait, parce que nous, pour mieux comprendre, on est isolé et détenu que entre prisonniers politiques. On n'est pas mix avec d'autres prisonniers de droit commun ou d'autres. Alors on avait cette vie bien organisée. On avait par exemple nos élections discrètes. Nos élus discrets, nos comités qu'on votait, les comités qu'on veut, qui ça dépend des besoins des comités de sécurité interne, des comités de culture, comités d'organisation, comités juste pour gérer la vie quotidienne, de comités de faire à manger. Bon, tout est choisi. Démocratiquement, on veut dire, on avait nos élections tous les 6 mois. On avait, parce que dans la prison, c'est une question d'un combat entre l'être humain et le temps. Qui va contrôler qui? C'est toi qui contrôles le temps ou c'est le temps qui te contrôle? Si toi tu permets que le temps il te contrôle dans une prison, là t'es perdu. Mais si toi, tu arrives en tant qu'organisation des prisonniers à vraiment gérer le temps et remplir l'emploi de temps au maximum, c'est là où tu vas rendre ces journées et ces années de prison efficaces, on va dire. Alors, on avait ces journées bien chargées, réveil collectif, 8h, 9h, ça dépend si c'était été ou l'hiver. Petit déj collectif 9h-9h30, on sortait dans la cour, on rentrait, on donnait la première cour pour tout le monde. Ça dépend de la cellule, parce qu'il y a des cellules où on était à 3, il y a des cellules où on était à 8, il y a des cellules, des fois on était à 40, alors ça dépend. Alors ces cours, c'était différentes. Ça dépend qui était présent. Des fois, tu avais des journalistes, des spécialistes, des journalistes qui donnaient des cours de journalisme. Il y avait des philosophes. Alors, il faut donner des cours de philosophie. Des anciens prisonniers qui ont beaucoup lu des analyses de l'histoire, sur les histoires des peuples, sur le combat des autres peuples, sur la question, pour approfondir la question idéologique chez les jeunes. On faisait des cours d'idéologie pour les jeunes. Bon, on faisait tout, des cours de tout. Et après, on avait 1 heure, 2 heures de lecture de l'après-midi, parce que pour les prisonniers, c'était obligatoire au moins de lire de 2 à 3 livres par mois. Après, on sortait dans la cour collectivement, on rentrait, deuxième cours, faire à manger le soir. Bon, il y avait cette vie bien, bien, bien chargée, bien organisée. T'avais des modèles devant toi, des modèles qui sont là depuis 20, 30, 35, 30, et là le plus récent qui est sorti, qui a passé 40 ans dans les prisons. Alors t'as ces modèles qui sont pas cassés depuis des années, qui te donnent aussi de la force et qui te donnent de l'énergie de continuer. Moi, à 16 ans, dans un passage où j'avais 16 ans, j'ai vu un prisonnier, et en 2022, je l'ai vu, il était toujours en prison. Alors que moi j'ai fait 6 allers-retours en prison entre 2001 et 2022. Il était toujours là, digne, avec sa résilience, et il continuait son combat dans la prison. Alors il y a ces images-là qui donnent de la force. Il y a le combat quotidien, il y a le combat pour améliorer les circonstances des détentions, mais aussi, comme elle a dit Elsa, il y a des combats aussi pour défendre notre dignité. Il y avait on a fait une grève de la faim. La question de la grève de la faim, je veux parler de la grève de la faim. La grève de la faim, c'est le moyen stratégique, je veux dire, pour défendre notre dignité et défendre notre droit. Parce qu'on avait d'autres moyens quotidiennes de refuser d'être compté, de refuser de sortir à la cour, de refuser de recevoir des visites des parents, et plusieurs moyens de proteste contre l'administration de prison. Mais le moyen stratégique, je veux dire, c'était la grève de la faim. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas facile de prendre décision de déclencher une grève de la faim. C'était une énorme responsabilité. Parce que si on faisait 3 ou 4 000 grèves de la faim, on savait qu'à la fin de la grève de la faim, on peut retourner avec 1 ou 2 ou 5 ou 10 de moins, alors qu'ils sont morts dans une grève. Alors, éthiquement, pour nous, c'était une autre responsabilité de déclencher cette grève. Mais il y a des moments où on ne pouvait plus, et on arrivait à un impasse dans les négociations avec l'administration de prison où on déclenchait des grèves de la faim. Moi, j'en ai fait 2 de grève de la faim, une en 2011 et une en 2022. Alors, dans la grève de la faim, déjà pour organiser une grève de la faim, c'est une organisation qui est très difficile, de faire la communication entre les 10-20 prisons, de choisir les noms, de se mettre d'accord sur les noms, de se mettre d'accord sur les listes des demandes, de se mettre d'accord sur le petit comité qui va gérer la grève de la faim, qui va négocier au nom de tous les prisonniers. De faire la communication avec l'extérieur, de faire la communication avec les médias, tout ça se passe bien sûr discrètement. Apprendre aux jeunes, aux nouveaux jeunes, comment faire les formations aux jeunes, comment on fait une grève de la faim pour les gens qui n'ont pas fait une grève de la faim avant. On s'apprend, des fois, une grève de la faim collective, elle peut arriver à 1 an, à 2 ans, à 3 ans de préparation. Mais au moment de déclenchement de cette grève, il y a vraiment des crimes de guerre qui peuvent être commis contre les prisonniers en grève. Moi, la dernière grève de la faim, au moment du déclenchement de la grève, j'étais mis à l'isolement total, une petite cellule de 2 mètres carrés, un petit lit attaché au sol, un matelas de 2 cm avec une couverture. Tous mes biens, ils étaient confisqués. Devant le lit, il y a un petit mur, on va dire, et derrière, il y a les toilettes. Il n'y avait pas une douche dans la cellule. Le sel, il était confisqué. J'avais le droit qu'à une bouteille d'eau. J'avais une caméra installée au-dessus de ma tête 24 heures sur 24 heures. Des pressions à l'heure quotidienne par l'administration de prison pour essayer d'arrêter la grève de la faim. Par exemple, le corps, après 4-5 jours de grève de la faim, tu peux à peine dormir 4 ou 5 heures dans la journée entière. Alors la nuit, quand ils te voient que tu es tombé en sommeil, et une heure après, ils viennent et ils ouvrent la porte. Déjà, c'est vraiment à l'isolement total, hein. Il n'y a pas de fenêtre, qu'une porte blindée, il n'y a pas de soleil, rien du tout. Et au moment qu'ils te voient en train de dormir, et ils ouvrent la porte, ils rentrent 4-5 polices bien blindées. Ils disent, ils se réveillent, ben on veut fouiller la chambre qui est déjà vide. Alors ils te réveillent, juste ils te mettent à l'extérieur pour perturber ta sommeil, pour te faire perdre d'énergie et des forces. Après, quelques heures après, il y a un autre gardien qui vient avec un menu en disant, voilà, il n'y a pas que la nourriture de la prison que peut t'offrir, on peut t'offrir même des plateaux de l'extérieur de la prison. Si tu veux, on te ramène un burger, on te ramène je ne sais pas quoi, juste pour mettre la pression. Les docteurs et les infirmiers sont complices aussi, ils viennent distribuer des tracts. En disant, oui, voilà, tract numéro 1, tu veux devenir aveugle dans combien de jours, tu vas devenir sourd dans combien de jours, tes cheveux vont jamais pousser dans certains temps. Bon, toutes les pressions sont faites. On était des fois, pas dans cette fois-ci, dans une autre grève de la faim, on était transféré dans une façon arbitraire, dans un bus de transfert blindé de fer, menotté mains et pieds. Après certains jours de grève de la faim, on se fait transférer 15 heures et 16 heures de trajet alors qu'on n'avait pas des forces. On était menottés mains, pieds dans un bus blindé où il faisait vraiment une chaleur énorme et on n'avait pas le droit de toilette. Bon, ça nous arrivait aussi en grève en 2011. Après quelques jours de grève, je pense 10, 12 grèves, jours de grève, où les gardiens ils sont venus, on était isolés 8 dans chaque cellule, dans une section où il y a 15 cellules. Les gardiens qui sont venus, qui ont installé des grands ventilateurs devant les fenêtres de la cellule, d'un coup ils ont démarré les ventilateurs. Jusqu'à le moment on ne comprenait pas pourquoi. Quelques minutes après, ils ont fait rentrer des prisonniers de droit commun israéliens. Ils ont installé leur barbecue, ils ont démarré leur barbecue juste pour faire rentrer l'odeur de viande grillée, l'oignon grillé dans nos cellules pour nous mettre la pression pour demander à manger. Mais aussi, ça est arrivé dans les années 80, mais après, c'est légalisé, c'est devenu légal là, il y a récemment. Dans les années 80, il y avait une grève de la faim qui était déclenchée, il y avait une grande solidarité avec les prisonniers. Il y avait une décision politique israélienne d'arrêter cette grève de la faim. Une directeur de la prison qui a fait l'initiative, il a pris en force 3 prisonniers. Il les a menottés chacun sur un lit. La méthode, c'était de faire entrer un tube par le nez qui va jusqu'à l'estomac et de renverser du lait dans les estomacs des prisonniers. Malheureusement, dans 2 de ces cas, le tube n'est pas allé dans l'estomac, il est allé dans les poumons. Et ils ont renversé du lait dans les poumons et les 2 prisonniers, ils étaient morts directement. Alors c'est dans cette façon-là, les grévistes, la grève de la faim, est traité par l'occupation israélienne, par l'administration de prison. Je m'arrête là et après je fais la conclusion de ce que je pense à la fin de l'intervention.
Bintishalabi.